Bonjour à tous. Comme chaque vendredi, on vous propose un débat contradictoire entre deux économistes. Aujourd'hui, Thomas Piketty et Michel Husson s'opposent sur le concept de capital. C'est un très vieux débat qui traverse la gauche et qui ressurgit aujourd'hui avec la publication de cet ouvrage d'Alain Bir et Michel Husson, Thomas Piketty, une critique illusoire du capital. Pour les deux économistes d'inspiration marxiste, l'auteur du capital au XXIe siècle ne va pas assez loin dans sa dénonciation. Mieux, il se trompe d'ennemi lorsqu'il cible l'idéologie plutôt que les rapports de production. Faut-il davantage redistribuer les richesses ou remettre en cause le principe même du capitalisme ? C'est l'épineuse question à laquelle nous allons tenter de répondre en compagnie de Thomas Piketty, professeur à l'EHESS, qui vient de publier au Seuil « Vivement le socialisme » et de Michel Husson, chercheur associé à l'Institut de recherche économique et sociale et auteur de ce fameux ouvrage critique paru cette semaine aux éditions Sileps. À 14h45, racontez-moi l'écho, votre rendez-vous qui mêle fiction et économie. On se glissera dans la peau des chauffeurs de taxi en grève grâce aux cloches de balle de Louis Aragon. Thomas Piketty et Michel Husson, bonjour.
Bonjour.
Un grand merci d'avoir accepté de participer à ce débat. Commençons peut-être par un point qui devrait vous mettre d'accord, la montée des inégalités qui est au cœur de votre ouvrage paru en 2013, Thomas Piketty, Le Capital au XXIe siècle. Vous y montrez qu'après avoir été largement réduites au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, les inégalités ont recommencé à augmenter au début des années 80, au point qu'aujourd'hui 1% de la population possède près de la moitié de la fortune mondiale.
Oui, tout ça est vrai, et en même temps, quand on dit ça, je voudrais pas qu'on surestime la diminution des inégalités qui avait eu lieu dans les périodes précédentes. C'est-à-dire que la vérité, c'est que notre système économique est resté à toutes les époques un système où le pouvoir est extraordinairement concentré, parce que la richesse, le patrimoine, le capital, la propriété, c'est d'abord le pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir de diriger dans une entreprise, le pouvoir d'expulser un locataire, et ces relations de pouvoir. Elles sont devenues un peu moins inégalitaires dans l'après-Seconde Guerre mondiale, mais elles sont toujours restées, juste un chiffre sur la propriété, les 50% les plus pauvres, aujourd'hui en France, possèdent à peine 5% de la totalité de la propriété, en incluant à la fois les moyens de production, les entreprises et le logement. Et alors au 19e siècle, au début du 20e siècle, c'était 2 ou 3%, donc on peut dire ça s'est amélioré, maintenant c'est 5%, mais vous voyez, pour 50% de la population, par comparaison, les 10% qui possèdent le plus ont possédé 60-70%. Alors, avant la Première Guerre mondiale, ils ont possédé 80 ou 90%. Donc, c'est vrai, il y a eu une diminution de l'inégalité, mais moi, j'insiste sur le fait que la concentration de la propriété et donc du pouvoir dans notre société n'a en fait jamais cessé d'être considérable. Et en plus, on est effectivement reparti dans une phase de concentration croissante.
Diminution des inégalités sur le temps long, mais réaugmentation depuis quelques décennies. Et ces inégalités se sont encore accrues avec la crise du Covid. Michel Husson, vous partagez d'abord ce constat et surtout la nécessité de lutter contre ces inégalités économiques et sociales ?
Absolument, et je crois qu'il faut rendre hommage aux travaux de Thomas Piketty d'avoir mis en lumière cette question des inégalités que l'économie politique avait laissée un peu sous le boisseau.
Avec un travail statistique notamment conséquent.
Tout à fait, avec une richesse de données tout à fait impressionnante mise à disposition des gens qui veulent travailler dessus. Et effectivement, sur la période, disons, d'après-guerre, on peut distinguer clairement un capitalisme plus ou moins régulé, où les inégalités sont plus ou moins maîtrisées. Et puis, à partir du début des années 80, une montée en flèche des inégalités de toutes sortes de revenus et surtout de patrimoine. Non, mais la question qui est après cette description, c'est l'analyse, la compréhension des mécanismes, des facteurs qui ont conduit à cette montée des inégalités. Pour Thomas Piketty, et là j'entre dans la phase un peu critique, pour Thomas Piketty, c'est un gonflement du capital qui, assorti d'un rendement qui est plus ou moins constant, fait que mécaniquement les revenus de ce capital augmentent et occupent une part croissante.
Je laisserai dire dans la répartition
des revenus.
On va vous donner la parole, Thomas Piketty, mais peut-être dites-nous effectivement, Michel Buffon, quelle est votre définition du capital avant de voir peut-être la définition qu'en donne Thomas Piketty.
Ben justement, la définition du capital que nous avons, c'est une définition qui est d'ordre sociologique, c'est-à-dire c'est un système de rapport de production qui fait qu'une classe sociale peut capter une partie de la richesse de différentes manières. Mais dans l'explication, si vous voulez, de cette montée des inégalités dans la phase, disons, néolibérale du capitalisme, à partir du début des années 80, il y a deux mécanismes qui sont à la source, et c'est ça qui va nous différencier aussi par rapport aux propositions, c'est un partage de la valeur ajoutée entre salaire et profit qui se dégrade au détriment des salariés, et une montée de la part qui revient aux actionnaires. Et quand on a ces deux mécanismes-là, explique en grande partie la montée des inégalités.
Alors c'est sur cette notion effectivement de capital que vous vous opposez. Est-ce que vous pourriez nous dire, Thomas Piketty, si pour vous le capital correspond à la propriété et peut-être votre vision selon laquelle le mal ne réside pas en soi dans la propriété privée du capital, mais peut-être dans le fait de le réglementer insuffisamment.
Alors là, on en vient déjà pratiquement à comment on envisage la suite et les autres systèmes possibles. Et donc, effectivement, moi, je propose à la fin de mon dernier livre, Capital et idéologie, un système que j'appelle de socialisme participatif, dans lequel il y aurait un très fort partage des pouvoirs, notamment dans les entreprises, avec des droits de vote très importants pour les représentants des salariés, un plafonnement des droits de vote des actionnaires les plus importants, qui permettrait de concilier une petite propriété privée avec l'émancipation individuelle. Mais je voudrais dire tout de suite, et avec une circulation permanente de la propriété qui permettrait d'éviter une concentration individuelle trop forte. Je veux dire tout de suite que ce système que je propose sur la base des expériences historiques que j'analyse, c'est pas du tout censé être un truc fermé, parfait. Et moi, je veux dire, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui dans ce débat, c'est que j'ai envie de mieux comprendre aussi quelles sont les propositions de Michel Husson pour organiser le socialisme ou le communisme ou le modèle qu'il souhaite pour l'avenir. Et je pense que il faut prendre au sérieux simplement cette question de par quoi on remplace le capitalisme tel qu'il existe actuellement. Parce qu'il ne suffit pas, et pour arriver à trouver un système qui soit réellement émancipateur, l'histoire du XXe siècle nous montre bien que c'est facile de décréter la fin de la propriété privée, mais de déterminer un autre système qui soit réellement émancipateur, moi je pense que c'est possible. Je fais des propositions en ce sens, à nouveau, avec ce système de partage des droits de vote et de redistribution permanente de la propriété. Je ne prétends pas que ce soit la fin de l'histoire, que ce soit le seul. On peut imaginer d'autres formes ensuite. Enfin, vraiment, toute la discussion est ouverte. C'est une discussion. C'est tellement complexe que voilà, on essayons d'en parler et ne nous trompons pas d'ennemis. Et alors après, sur ce qui est de l'analyse historique du capital, là, moi, je mets vraiment l'accent sur les relations de pouvoir. Alors, Michel Husson parle de rapports sociaux de production. Moi, c'est une expression qui me va très bien. En tout cas, le fait que au fondement des régimes de propriété dans l'histoire, ce soit toujours des relations de pouvoir. Alors, j'insiste quand je parle d'idéologie dans mon livre sur régime de propriété, régime de frontières, régime politique, pouvoir sur les choses, pouvoir sur les hommes, sauf qu'en fait, le pouvoir sur les choses et la propriété des moyens de production, c'est toujours aussi un pouvoir sur les personnes, un pouvoir hiérarchique, et c'est vraiment cette question de l'émancipation et des analyses de relations de pouvoir que je mets au centre de mon travail historique sur les inégalités.
Vous pointez du doigt l'idéologie propriétariste, Thomas Piketty, sur laquelle se fonde, selon vous, le capitalisme. Qu'est-ce que vous pensez, Michel Husson, de ce concept de société des propriétaires et de cette explication aussi des origines
du capitalisme? Oui, mais je reviens un peu en arrière parce qu'on a sauté aux propositions alternatives. Et il y a une espèce de principe méthodologique, c'est-à-dire que les concepts qu'on utilise pour critiquer la réalité qu'on veut transformer doivent être cohérents ensuite avec les propositions qu'on va formuler. Or, si vous voulez, en gros, la conception qu'on a dans notre livre, ce sont des mécanismes essentiels du capitalisme qui engendrent les inégalités, qui d'un certain point de vue sont fonctionnelles parce que elles assurent la reproduction du système. En revanche, excusez-moi, mais puisque c'est une critique de votre ouvrage, je dois y faire référence. La définition du capital de Thomas Piketty est extrêmement englobante. Hein, elle est équivalente à celle de patrimoine. Là, c'est l'ensemble des actifs non humains qui peuvent être possédés, échangés sur un marché, donc Il y a les immeubles, les logements, le capital financier. Bon. Et donc, l'idée que les inégalités montent parce que ce capital, disons, grossit, conduit à des recommandations, c'est pas les seuls, mais qui sont essentiellement d'ordre fiscal. Il s'agit de taxer.
On va y venir.
Là, je parlais de partage du pouvoir, c'est plutôt le système légal que le système fiscal.
Pas essentiellement, je reviendrai à ces autres propositions. Mais à partir de ce moment, si vous voulez, ces propositions sur la fiscalité sont en correspondance avec le concept et la définition de capital. Le capital grossit trop, donc on va le taxer pour le réduire et mieux le répartir. Nous, nous disons, il faut travailler à la source, réfléchir sur les raisons pour lesquelles ce capital a été gonflé et prendre des mesures qui sont à la racine des choses, c'est-à-dire qui portent sur le partage de la valeur ajoutée et sur la redistribution du profit auprès des actionnaires.
Qu'est-ce que vous répondez, Thomas Piketty, à ces désaccords véritablement théoriques, effectivement, avant d'en venir à vos propositions?
Franchement, là, bon, vous avez cité un passage de Capital au XXIe siècle, donc qui est un livre paru il y a 7 ans et dont je me reconnais tout à fait. Bon, j'ai essayé dans Capital et idéologie, qui est paru l'an dernier, d'avoir un point de vue encore plus global, disons, sur l'histoire des régimes de propriété. Et ce que je mets au centre, à nouveau, c'est vraiment les rapports de pouvoir qui découlent de ces différents régimes de propriété, qui d'ailleurs inclut aussi le pouvoir direct sur les personnes à travers les systèmes d'esclavage et la façon dont les émancipations, les abolitions de l'esclavage au XIXe siècle se sont par exemple accompagnées d'énormes compensations financières aux propriétaires d'esclaves. Dans le cas d'Haïti, une dette considérable repayée à la France jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, hein, dont on ne veut pas entendre parler aujourd'hui en France, mais qui est intéressante parce que ça montre justement la correspondance entre des régimes de propriété ou des régimes de domination, en l'occurrence esclavagistes anciens, et des régimes de propriété financière, en l'occurrence avec une dette internationale, et comment en fait les deux s'imbriquent l'un dans l'autre. Et c'est cette histoire des relations de pouvoir à travers les transformations des régimes de propriété que j'étudie. Et c'est vrai que là, quand j'entends Michel Husson, j'ai pas l'impression qu'il ait lu ça. Enfin, disons, j'ai pas l'impression qu'il parle vraiment de ce que j'ai écrit. Et donc, je suis un peu embêté parce que j'ai l'impression qu'il y a un peu une dispute pour le plaisir de se disputer. Mais je trouve pas ça très, très constructif. Mais bon, je suis là dans l'espoir d'essayer que tout ça devienne un peu plus constructif.
Est-ce qu'il s'agit que d'une dispute sémantique, Michel Husson, ou est-ce que ce que vous nous dites, c'est que derrière ce désaccord autour de la notion de capital, eh bien, il se joue deux lignes politiques assez différentes?
Mais je pense qu'il y a une espèce de renversement, c'est-à-dire le capital et l'idéologie. C'est-à-dire, je pense que vous faites jouer un rôle clé à l'idéologie, alors jusqu'à dire, par exemple, que la montée de la social-démocratie est fondamentalement un triomphe d'une bataille d'idées. Moi, je pense que il y a des analyses plus matérialistes ou plus classiquement marxistes, si vous voulez, qui font que cette montée de la social-démocratie résulte de rapports de force issus de la guerre mondiale, etc., mais s'appuie sur quelque chose dont vous faites peu cas, à savoir des gains de productivité qui permettent une certaine redistribution et qui donnent au capitalisme un dynamisme qui a disparu aujourd'hui. Et c'est ce basculement-là qui est pas vraiment pris en compte, qui est en somme la base matérielle sur lesquelles peuvent s'échafauder des représentations, disons, de type social-démocrate, on peut partager, le capitalisme dorénavant est régulé, etc., à des représentations néolibérales qui vous disent, au fond, le capitalisme ne peut fonctionner que sur un mode finalement régressif. On réduit les dépenses sociales, on réduit le coût du travail, etc. Mais en revanche, avec la théorie du ruissellement, etc., il est important pour le dynamisme de ce capitalisme ne repose plus que sur la captation de richesses par une classe qui va insuffler de l'innovation, etc.
Ce que vous nous dites, c'est que ce n'est pas par la lutte contre les idées qu'on renverse les rapports de domination, contrairement à ce que vous lisez dans le livre de Thomas Piketty.
Non, ne me faites pas dire ce que les idées importent.
J'essaye de comprendre.
Tout à fait. Non, mais les idées importent, elles accompagnent le mouvement, les mouvements sociaux, etc. Elles donnent un horizon, elles dessinent un horizon, elles donnent des argumentaires contre l'idéologie officielle, etc. Mais en soi, elles ne peuvent pas suffire si elles ne sont pas appuyées sur des luttes sociales. Elles ne peuvent pas. Il y a beaucoup d'idées extrêmement généreuses qui ont émergé au 19e siècle, au début du 20e siècle, etc., de réformateurs sociaux, etc., qui n'ont eu aucun écho. Et qui sont, par certains côtés, proches de ce que peut avancer Thomas Piketty, avec le, que je partage, si vous voulez, sur l'objectif de progrès social.
Sur l'importance de combattre les idées, Thomas Piketty.
Alors, non, moi je suis vraiment d'accord avec Michel Huchon sur l'importance des rapports de force matériels. Je pense aussi que la dimension idéologique est importante maintenant, mais l'importance première des rapports de force matériels, là je voudrais à nouveau dire, bon, moi j'ai écrit trois livres. J'ai écrit Les hauts revenus en France au XXe siècle en 2001, Le capital au XXIe siècle en 2013, Capital et idéologie en 2019, c'est trois livres sur l'histoire des inégalités. Mais dès mon premier livre, enfin, si vous allez le regarder, vous verrez le rôle central joué par la guerre mondiale, la première guerre mondiale et la révolution bolchevique dans la réduction des inégalités. C'est-à-dire que c'est vraiment uniquement après la première guerre mondiale, par exemple, que l'impôt sur le revenu ou ensuite la sécurité sociale après la deuxième guerre mondiale vont s'imposer à des groupes sociaux et notamment à des élites politiques et économiques qui n'en voulaient pas jusqu'à la Première Guerre mondiale et dont les capacités de résistance faisaient qu'elles ne permettaient pas leur adoption. Et c'est uniquement ce bouleversement complet des rapports de force qui se fait dans la violence, dans des mobilisations sociales, syndicales, qui permet ce renversement. Et ça, vraiment, lisez l'histoire que je raconte déjà dans mon livre de 2001. La réduction des inégalités n'a jamais été pour moi la conséquence paisible du socialisme électoral, des élections, du suffrage universel, et hop, ça y est, on adopte les bonnes politiques. Je n'ai jamais eu cette vision des choses, parce que ça ne s'est jamais passé comme ça. C'est le cas dans mon livre de 2001. Si vous allez maintenant dans mon livre de 2019, je montre dans mon histoire des régimes égalitaires que les grands changements se font par des mobilisations venues d'en bas. Les abolitions de l'esclavage, c'est pas des généreux intellectuels libéraux comme Tocqueville ou Schœlcher qui se disent « Tiens, si on abolissait l'esclavage ». C'est une révolte d'esclaves à Haïti qui pousse à l'indépendance d'Haïti. C'est la menace d'autres révoltes d'esclaves qui conduit les Britanniques en 1833 à finalement céder sous la pression à abolir l'esclavage, non sans compenser financièrement les propriétaires d'esclaves. La transformation de la Suède, pour prendre un exemple de régime social-démocrate, ça s'est fait dans des mobilisations syndicales populaires partant d'un pays qui n'était absolument pas culturellement et paisiblement porté sur l'égalité, bien au contraire. Je montre comment la Suède de 1865 à 1911 a le régime politique le plus propriétariste du monde. C'est-à-dire que c'est un système, je vais m'arrêter une seconde là-dessus parce que ça illustre ma démarche qui est d'essayer d'être liée régime de propriété à régime politique. C'est-à-dire qu'on est habitué en France ou au Royaume-Uni à l'idée d'un régime censitaire, comme on a en France de 1815 à 1848, où si vous êtes au-delà d'un certain niveau de propriété, vous avez le droit de vote. En dessous, vous n'avez pas le droit de vote. Voilà, c'est assez simple. Il y avait à peu près 1% des gens qui avaient le droit de vote entre 1815 et 1848 en France. C'est comme si aujourd'hui, seuls les contribuables de l'ISF avaient le droit de vote. La Suède, entre 1865 et 1911, va beaucoup plus loin, puisque, en gros, il y a les 20% les plus riches qui ont le droit de vote, enfin, les hommes les plus riches, 20% de droit
évidemment.
De vote, évidemment. Et à l'intérieur de ces 20%, vous avez entre 1 et 100 droits de vote, suivant le niveau de votre propriété, et même dans les élections municipales, il n'y a pas de plafond, ce qui fait que vous avez plusieurs dizaines de municipalités en Suède jusqu'en 1911, où une seule personne, de façon parfaitement légale, a plus de 50% des droits de vote. Et même les entreprises ont le droit de vote sur la base de leur capital investi dans la commune. Et aujourd'hui, les multinationales aimeraient bien. Alors après, elles trouvent d'autres moyens pour avoir le pouvoir. Mais avouez que là, en termes d'explicitation du régime propriétariste, et c'est uniquement des mobilisations syndicales très fortes qui vont en fait remettre cette capacité étatique, parce que c'est un thème aussi important de mon livre, de montrer comment la formation de l'État centralisé peut être mise au service de différents projets politiques.
Des mouvements qui sont aussi présents au moment du New Deal, et c'est aussi ces mouvements qui permettent à Roosevelt
Les rapports de force matériels et idéologiques jouent un rôle central. Enfin, en tout cas, c'est l'histoire que j'essaye d'analyser.
Michel Huchon, sur cette question, et aussi sur le fait que c'est un débat qui traverse l'histoire de la gauche, c'était aussi important pour vous d'écrire ce livre pour apporter aussi une autre vision de l'économie.
Oui, absolument. Non, mais c'est il faut relativiser cette question d'idéologie, si vous voulez. Et puis, honnêtement, j'ai lu Capital et idéologie et j'ai extrêmement déçu parce que je travaillais d'une certaine manière sur ces questions aussi avec l'idée comment on légitime le fait qu'il existe dans les sociétés des pauvres ou des chômeurs ou des exclus, des surnuméraires. Et j'ai regardé le chapitre sur l'Angleterre. Et j'ai été extrêmement déçu parce que le biais, si vous voulez, c'est on apprend beaucoup de choses sur la Chambre des Lords, sa représentativité, etc. Mais beaucoup moins sur la discussion centrale et qui est intéressante du point de vue aujourd'hui. On retrouve, parce qu'on y retrouve à peu près les mêmes arguments, sur les lois sur les pauvres. Et avec le substrat, il y avait donc une idéologie, mais qui était en même temps adossé à des intérêts sociaux différents des propriétaires fonciers, du capital industriel en phase d'expansion, etc. Donc, sur cette même période, il y a eu ce qu'on a appelé la pause d'Engels, Engels, le copain de Marx, qui a regardé sur son étude sur la situation de la classe laborieuse en Angleterre en 1845, qui a regardé le blocage des salaires, alors que des indicateurs, c'est des historiens qui travaillent dessus, alors que la productivité augmentait, donc une captation de valeur, etc. Toute cette littérature d'historiens qui travaillent difficilement, modestement, etc., n'est pas répercuté, disons, non, c'est pas vrai, dans le chapitre.
Là, je suis déjà. Alors, Thomas Piketty. C'est vrai que le livre est un peu long, donc je vous en veux pas de rater des choses, mais quand même, là, c'est. Alors, la pause d'Engel, pour le coup, dans le Capital au XXIe siècle, elle arrive dans l'introduction. Et je cite Robert Allen, historien britannique, qui a beaucoup travaillé récemment sur la pause d'Engel, dans l'introduction. Et donc là, vous me dites, je l'ignore. Bon, écoutez, nous disputons pas bêtement. Moi, je veux dire que mon livre est très incomplet. C'est-à-dire qu'il y a des imperfections, mais je veux dire, partout. Et donc, en particulier sur le Royaume-Uni au XIXe siècle, écrivez un livre sur l'histoire du régime capitaliste au Royaume-Uni au XIXe siècle. Je trouve que ce serait plus intéressant que juste écrire un livre comme ça pour critiquer. C'est-à-dire, je pense qu'il faut aussi être constructif. Moi, j'ai jamais dit que avec un livre ou deux livres ou trois livres, on fait le tour de la question de l'histoire des régimes inégalitaires. Et je pense que c'est ces livres-là que j'ai envie de lire et que je lirai vraiment avec passion et ça apportera des choses parce que forcément il y a des choses que j'ai pas bien couvertes, mais soyons.
Sauf que pour vous, Michel Lusson, ce caractère incomplet et le fait de proposer des modifications que vous estimez être des modifications de façade, ça, non seulement ça ne sape pas les bases du régime de production, mais ça le renforce. C'est ça qui vous pose problème?
Oui, non, mais même une question de méthode. Le projet d'autre livre, bon, c'est l'argument facile, vous ne proposez rien, etc. Mais le projet d'autre livre, c'était d'évaluer la cohérence qu'il pouvait y avoir entre un appareil théorique et des propositions. Et on montre que l'appareil théorique ne nous convient pas et que les propositions nous semblent pour cette raison incomplètes. C'est ça l'objectif de notre livre. Alors on peut esquisser en creux ce qui manque. Mais et si il y a deux béances tout à fait considérables dans des propositions de Thomas Piketty. La réduction du temps de travail et les créations d'emplois, ce qu'on appelle aux États-Unis le job guarantee, dont il dit à peu près rien. Il y a une proposition sur le revenu universel, mais dont on dit immédiatement qu'elle doit compléter les rémunérations, alors qu'on se demande pourquoi il serait pas plus simple de dire il faut augmenter les rémunérations.
Aussi. Oui.
Alors il faut venir aux propositions aussi, une à une pour la clarté de cette discussion.
Oui, mais vous voyez
Thomas
bien
Piketty propose effectivement.
En creux, nous avons des propositions.
Alors on va voir ça en effet. Vous évoquez donc Thomas Piketty le principe d'une propriété sociale du capital. Donc en clair cette idée de mieux partager le pouvoir au sein des entreprises. Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition, Michel Lusson, qui est déjà mise en œuvre sous certaines modalités en Allemagne, dans les pays nordiques?
J'ai envie de répondre sur une autre proposition qui a beaucoup frappé, mais qui est du même registre, qui est la distribution aux jeunes d'un capital initial de 120 000 euros. Et là, il me semble qu'on voit le problème avec la théorisation initiale. Le capital qu'on va distribuer en taxant les très hauts patrimoines, ce capital est, vous allez me dire si je me trompe, constitué uniquement, enfin essentiellement, d'actifs financiers.
Et immobiliers, oui.
Bon. Si on taxe
les professionnels
pour récupérer ce capital et le redistribuer aux jeunes pour les doter, pour une dotation initiale, sans parler de l'intérêt de cette formulation, mais mécaniquement, on fait tomber le cours des actions en question. Et donc, on ponctionne quelque chose qui est en fait une baudruche et qui, au moment d'être ponctionnée, se dégonfle.
Par une perte de valeur. Et alors, Ma Piketty, est-ce que ça peut entraîner un crash économique de taxer des hauts patrimoines composés d'actifs financiers?
C'est une partie du but. C'est-à-dire qu'effectivement, de même que, si vous voulez, sur l'immobilier, vous avez beaucoup d'immeubles qui sont vides, où les gens ont des résidences secondaires à Paris, qui habitent en province, à l'étranger, partout, etc., et qui laissent des immeubles vides. Donc effectivement, si vous imposez fortement et vous les obligez de mettre en vente de façon accélérée une bonne partie de tout ça pour payer une ponction très importante sur leur patrimoine, comme je le propose, oui, sans doute, les prix immobiliers vont baisser. Bah, tant mieux. Figurez-vous qu'il y aura d'autres personnes moins riches pour acquérir ce capital immobilier. Donc, ça fait cet effet-là fait tout à fait partie de ce qui est du but recherché.
Est-ce que ça peut pas entraîner une crise d'une plus grande ampleur qu'on ne maîtriserait pas?
Écoutez, là, enfin, franchement, pour moi, les prix immobiliers, les prix boursiers aujourd'hui, ils sont juste beaucoup trop élevés. Mmh. Donc, le problème n'est pas, mince, alors, il risque de devenir trop bas.
Enfin, non, mais le problème, si ça s'effondre, qu'est-ce que vous redistribuez aux jeunes?
Ben non, mais les immeubles et les entreprises, elles sont toujours là. C'est-à-dire qu'il faut distinguer
vous les vendez à des prix dévalués.
Oui, mais c'est plutôt une bonne chose pour les gens qui ne possèdent
rien. Mais du coup, il y a peu d'argent à redistribuer. C'est ce que nous dit Michel.
Non, les actifs réels, eux, ils sont toujours là. Enfin, les immeubles, vous savez, le prix peut être divisé par deux, ils sont toujours là. Les entreprises, les lieux de travail, les bureaux, les hangars, les entreprises, ils sont toujours là. Hein, c'est simplement leur valorisation marchande. Donc, faut distinguer quand même la valeur sociale et la valeur marchande du capital. Et la valeur sociale, elle est toujours là. Par contre, effectivement, leur valorisation marchande peut chuter. Mais pour moi, c'est plutôt un facteur positif qui s'accompagne de la redistribution sociale de cette propriété.
Après, on peut aussi considérer que cet argent...
Ça m'étonne que ça vous soucie, le fait que la valorisation marchande chute.
Mais parce que vous prétendez la redistribuer dans son état où elle est initialement.
À nouveau, la valeur marchande a chuté, mais les immeubles seront toujours là. Ce qui compte à la fin, c'est qui est dans les immeubles et qui
contrôle. On distribue les immeubles ou on distribue 120 000 euros?
À la fin, derrière ça, on peut acheter des immeubles, on peut acheter des entreprises. Donc le fait que les prix aient baissé, si tous les prix des entreprises et des immeubles ont divisé par deux, tout ça revient au même. Enfin, à la fin, les mêmes droits. Parce qu'à la fin de tout ça, c'est beaucoup plus une question d'argent, c'est une question de pouvoir. Je reviens quand même.
Mais justement, est-ce que ce pouvoir doit être individuel ou est-ce que ce pouvoir doit appartenir davantage pour développer des services publics, par exemple, Michel Husson, ça c'est votre point de vue. Il s'agirait moins d'être dans cette idéologie propriétaire, c'est ce que vous nous dites.
Une alternative, disons, ou même un capitalisme un peu régulé, l'idée c'est effectivement de ponctionner de l'argent pour financer des services publics et assurer un certain nombre de droits qui sont aujourd'hui théoriquement garantis, mais qui ne le sont pas effectivement, y compris le droit au logement. Par exemple, le droit au logement, est-ce que ça passe par une distribution d'argent aux futurs acheteurs ou locataires, ou par une politique, disons, de planification de l'offre de logement?
Alors, ça passe par les deux, mais là, c'est là que moi, je vais vous poser aussi une question, parce que moi, je pense que on a besoin, notamment sur le logement et sur les petites entreprises, de conserver quand même des formes de petites propriétés privées. Alors, régulées et considérablement amoindries dans le pouvoir que ça confère, par le fait quand même que dans une entreprise, je propose que, y compris dans les plus petites entreprises, il y ait la moitié des droits de vote pour les représentants élus des salariés, et que sur l'autre moitié des droits de vote, un actionnaire individuel ne puisse pas, dans une grande entreprise, détenir plus de 10% de ces 50% des droits de vote. Donc je donne des exemples dans le livre, où grosso modo, ça veut dire que sur si vous avez quelques salariés, que vous créez une épicerie bio, une entreprise d'artisanat, vous avez quelques salariés, vous avez mis 10 000 euros, 50 000 euros, vous avez effectivement plus de droits de vote que le salarié que vous avez embauché la semaine dernière, qui peut-être partira la semaine suivante pour développer son propre projet. Et je pense que la petite propriété privée de cette forme-là, ça peut être un mode d'émancipation individuelle possible, permettant à différentes subjectivités et différents projets de se développer. Mais dès lors que vous avez 5, 10, 20 salariés, dans le système que je propose, y compris un apporteur unique de capital, n'aura pas la majorité des voix à lui tout seul et sera obligé de faire des coalitions, sera obligé de discuter. Donc, moi je pense que remplacer entièrement la petite propriété privée sur des petites entreprises et sur le logement, où on a quand même des millions de décisions individuelles et aussi de subjectivités individuelles de personnes qui veulent vivre à la campagne, à la ville, des logements complètement différents, remplacer ça entièrement par des organisations collectives dont vous nous dites que c'est pas l'État centralisé, mais enfin, à la fin des fins, il y aura quand même une bureaucratie, une organisation. Je dis simplement que ça, c'est pas forcément un gage d'émancipation. Et donc, j'assume dans cette idée du socialisme participatif, effectivement, le fait de reposer sur des formes limitées de petites propriétés privées.
En revanche, Michel Husson, vous serez sans doute d'accord pour dire que c'est l'héritage qui est l'une des causes majeures des inégalités et qu'il y a quelque chose à faire de ce côté-là.
Oui, oui, cette question-là, elle est... Non, je suis d'accord avec les propositions sur l'héritage.
Mais qu'est-ce que vous faites de la petite propriété privée? Alors, moi, j'ai l'impression que vous n'en vouliez pas du tout. J'arrive toujours pas à comprendre.
Oh, écoutez, ne me faites pas le coup du bolchevique entre les dents qui veut nationaliser la moindre petite entreprise.
Est-ce que vous croyez aux vertus émancipatrices?
Quel est votre vrai reproche par rapport aux propositions que je viens de décrire? Honnêtement, j'arrive toujours pas à bien comprendre ce que vous proposez d'alternatif, en fait.
Ce que vous venez d'écrire, c'est les petites entreprises, toutes petites, qui auront un peu d'initiative, etc. Qu'est-ce que vous dites des grandes?
Eh ben là, dans le cas, je suis assez précis. C'est-à-dire, je dis, un actionnaire individuel n'aura jamais plus de 10% de 50% des droits de vote. Donc, en fait, ce sera beaucoup plus coopératif et démocratique. C'est-à-dire qu'il n'y a plus le pouvoir du gros actionnaire individuel. Donc, c'est quand même une transformation complète du système de pouvoir. Donc, je voudrais juste voir ce que vous proposez de différent, de mieux. Et je dis ça, je veux dire, sans malice. C'est-à-dire, je pense qu'on a besoin tous ensemble de se mettre autour de la table pour réfléchir à une nouvelle forme de socialisme. Puisque c'est ça que j'arrive pas à voir dans votre démarche.
Michel Husson.
Mais dans ma démarche, c'est déjà de voir quelle est la validité des propositions que vous faites, puisque c'est un livre qui
est d'abord d'histoire, je veux dire quand même. Moi, tout à l'heure, mon premier reproche, c'était pourquoi vous faites pas un livre d'histoire sur les inégalités au 19e siècle au Royaume-Uni, plutôt que simplement faire des critiques.
Mais il y en a de très bons.
Est-ce que, Michel Husson, vous croyez aux vertus émancipatrices de la propriété privée sous certaines conditions?
Oui, bien sûr, ce n'est pas la question. Mais prenons par exemple les GAFAM. Est-ce que vous allez dire, dans le conseil d'administration de Microsoft, on va mettre la moitié de représentants des salariés et ça va tout changer?
Non mais attendez, moi pour commencer, sur les GAFAM, c'est quand même assez simple. C'est-à-dire que l'impôt sur le patrimoine que je défends, il monte pour les milliardaires à 90%. Donc quelqu'un, si Mark Zuckerberg ou Jeff Bezos possède 100 milliards, l'année suivante, il aura plus de 10 milliards. Là, il aurait payé encore 60%. En fait, tout le monde redescend vers quelques millions maximum.
Droits de propriété, de gestion, vous me répondez sur les...
Bah donc il perd tous ses droits de vote. Oui, mais il perd tous ses droits de vote. Il perd immédiatement. C'est-à-dire qu'il a non plus... Bah, il perd le pouvoir. C'est-à-dire concrètement, dans le système qui est décrit là, dans le cas des GAFAM, on perd le pouvoir. Alors après, redistribuer le pouvoir, ça suffit pas. Je pense que c'est aussi les objectifs de croissance, et notamment, on n'a toujours pas parlé des questions d'environnement, qui sont centrales. C'est-à-dire que si on modifie pas la façon dont on comptabilise le revenu national, si on prend pas en compte tous les dégâts environnementaux, je parle de 4 carbone individuels, je pense que ce sont tous les objectifs de croissance, parce que c'est vrai que juste redistribuer le pouvoir par rapport à des gros actionnaires, si c'est pour faire le même type de développement économique, ça suffit pas. Mais si on fait les deux ensemble, ça change complètement la structure de pouvoir du capitalisme actuel.
Alors il y a ces propositions et puis il y a leur faisabilité. Le problème pour vous, Michel Husson, c'est que la réforme a toutes les chances d'être empêchée par ceux qu'elle désavantage. C'est aussi peut-être pour ça que ce n'est pas la voie à emprunter, selon vous?
Bon, écoutez, moi j'ai été ravi que le livre de Thomas Piketty, le dernier, s'appelle « Vivement le socialisme », parce que ça veut dire que ces questions sont posées. Elles sont posées dans une période qui est extrêmement hostile, qui est extrêmement régressive, qui est extrêmement dramatique par certains côtés. Et donc, effectivement, c'est difficile de mettre en avant des propositions. Et je pense que les propositions de Thomas Piketty sont intéressantes, mais trop factuelle, etc., trop précise, finalement, d'une certaine manière, ce qui est peut-être un avantage, mais qui, d'un autre côté, ne décrit pas, comment dire, un horizon vers lequel on pourrait aller. Alors, par exemple, sur l'environnement, il y a un refus quasiment ou une marginalisation de ce qu'on appelle la planification écologique. C'est pas avec une carte individuelle carbone où on va voir en mesurer sa consommation en CO2 qu'on va régler des questions qui sont énormes. Énorme et
ça
très difficile à régler.
Solution, mais ça suffit pas.
Il faut être beaucoup plus ambitieux, nous dites-vous, Michel.
Oui, mais franchement, c'est un gadget, ce truc-là. Ah non, c'est même pas dans le livre, vous l'avez rajouté ensuite, il me semble,
l'idée de carbone.
Si, c'était déjà.
Pourquoi c'est un gadget selon vous, Michel?
Vous avez un peu sauté des pages, quand même.
Non, parce que vous êtes.
C'est long en même temps.
Vous êtes revenu plus en détail après pour préciser ce point.
Oui.
En quoi est-ce qu'il faudrait une politique environnementale plus ambitieuse que celle qui est proposée par Thomas Piketty?
En gros, l'idée centrale, à notre sens, c'est que on ne peut la planification écologique, ça veut dire qu'on décrète que il faut produire de telle ou telle manière, que telle ou telle production doit être supprimée. L'autre, les autres recettes, c'est de dire on va distribuer une taxe, enfin une carte individuelle qui va mesurer votre consommation, donc vous aurez droit à une certaine consommation, mais les pollueurs sont aussi du côté de la production, donc on n'y touche pas. Et puis il y a tout ce qui est du ressort des incitations, des signaux prix, la taxe carbone, etc. Mais qui est sous-dimensionné par rapport à l'énorme effort qu'il faudrait faire dans la transformation.
Mais je pense que vous êtes d'accord sur le fait qu'effectivement l'urgence écologique impose d'aller peut-être encore plus loin,
en fait, que c'est d'abord les normes de production. C'est-à-dire quand il y a quelque chose qu'il faut interdire, il faut juste l'interdire. Et quand si on veut interdire les moteurs à essence à telle date, on les interdit. Et c'est pas, on va mettre une incitation quand il y a quelque chose qu'il faut interdire. Donc ça, je le dis très clairement, je l'ai toujours écrit. On va pas faire une bataille comme ça de cours de récréation, à savoir le qui se soucie le plus de l'environnement. Enfin, je crois que ça mérite quand même un peu mieux que ça. Après, une fois qu'on a dit ça, planification écologique, normes de production, je pense que la carte carbone individuelle, c'est la seule façon de réconcilier un objectif de justice dans la répartition des efforts, avec en même temps un objectif de limiter le volume des émissions carbone. C'est-à-dire que les solutions de type taxe carbone qui frappent de la même façon quelqu'un qui prend sa mobylette pour aller au travail ou sa voiture, ou quelqu'un qui prend l'avion ou son 4x4 le week-end, ça ne marche pas. Et donc, et l'idée qu'on ne peut pas faire de carte carbone individuelle parce que c'est trop intrusif, vous savez, il y avait les mêmes discours vis-à-vis de l'impôt sur le revenu avant 1914, que ça allait être inquisitorial. Et donc moi j'y crois pas. Vous savez, actuellement, nos banques, avec nos transactions de carte bancaire, elles ont tout ce qu'on dépense chaque jour, et pourtant on a appris à leur faire confiance, et on ne pourrait pas apprendre à leur faire confiance à une puissance publique qui le fait dans le cadre d'une carte carbone individuelle. Donc je pense que ce sont des débats compliqués, mais qu'il faut avoir.
On voit bien qu'il y a des désaccords de fond entre vous, et on est à 2 ans de l'élection présidentielle de 2022. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une nécessité de rassembler la gauche? Vous avez signé une pétition en ce sens, Thomas Piketty. Alors, quels seraient peut-être les compromis possibles pour permettre une union de la gauche?
Et Michel Husson me rappelait tout à l'heure quand on montait dans le studio qu'on avait, il y a quelques années, mais on a oublié l'un et l'autre le contexte exact, participé à des mobilisations communes unitaire, si je me souviens bien, de la gauche. Bon, là, on en arrive à la question électorale. Moi, tout de suite, je veux tout de suite être très clair sur le fait que les transformations que j'appelle de mes voeux, je me fais pas d'illusions sur le fait que ça pourrait arriver tranquillement, simplement à la suite d'élections. C'est-à-dire, je pense que c'est d'abord dans des crises et dans des rapports de force que les transformations se font. Et Michel Husson a raison de dire que je ne décris pas par le menu le processus par lequel ces crises vont survenir. C'est vrai parce que je ne le sais pas et je ne suis pas capable de le décrire précisément. Mais on est d'accord sur une chose, Michel Husson, c'est que ces crises sont le moteur de l'histoire. C'est-à-dire sans crise financière, sociale, les pandémies peuvent faire d'autres chocs d'une autre nature. C'est comme ça que les rapports de force se jouent et se déjouent.
Et alors justement, est-ce que la crise du Covid-19 n'est pas l'occasion aussi?
Oui, bah pour l'instant,
on a beaucoup parlé du monde d'après. C'est
oui, enfin, moi je trouve que c'est très global. Une pandémie, malheureusement, a tendance à favoriser le repli sur soi, la peur de l'étranger. Bon, ça peut donner lieu à des évolutions positives en Europe, et encore que pour l'instant, je suis assez sceptique. Sur les élections, bon, il faut quand même prendre en compte les élections. Donc moi, je me force au moment des élections. Je dis bien, je me force parce que c'est pas évident à prendre position, parce que je trouve ça un peu trop facile de rester à son bureau et de dire voilà, tous les candidats sont nuls et insatisfaisants, et ce qui oui est toujours vrai d'une façon ou d'une autre. Mais je pense qu'en même temps, il faut que chacun prenne sa part à ce moment-là. En même temps, la politique s'arrête pas aux élections. C'est-à-dire la politique, c'est les mobilisations sociales, c'est aussi le débat d'idées, et voilà, j'essaye de contribuer à tout ça.
Michel Husson, la gauche peut-elle, doit-elle s'unir, ou est-ce que les différents points de vue sont irréconciliable selon vous?
Moi, j'appelle de mes voeux, j'ai failli signer le même, mais parce que d'une certaine manière, je suis d'un pessimisme contemporain, qui consiste à dire que oui, je souhaite ardemment qu'il y ait une candidature qui rassemble les thèmes de transformation sociale, de l'écologie, du féminisme, etc. Mais je pense que dans la situation actuelle, objectivement, enfin.
Mais parce qu'on manque de programme ou parce qu'on manque d'une personne qui soit capable de rassembler la gauche? Ce sont les désaccords, c'est l'absence de personnalité qui émerge. Qu'est-ce qui bloque selon vous?
Les deux, mais probablement plus au fond, la question des programmes, quoi. Mm. Et en fait, je pense qu'on est malade du système présidentiel en France, qui force justement d'où votre question de l'homme ou la femme providentielle, qui force à ne pas forcément voter pour qui on préférerait voter parce que on craint les effets du second tour, etc. Et on est dans cette nasse, hein, qui est au fond qui est un obstacle à l'expression des points de vue, des aspirations, etc. Et donc on est obligé de jouer dans ce jeu-là qui nous enferme, quoi.
Et parmi les personnalités qui émergent, alors on a pu parler d'Anne Hidalgo, d'Yannick Jadot, de Jean-Luc Mélenchon, personne pour incarner cette gauche unie selon vous, Thomas Piketty?
Moi je me situe sur un autre plan, enfin après au moment des élections, comme je vous disais tout à l'heure, il faut bien choisir, mais fondamentalement je me situe sur un autre plan qui est essayer de réfléchir au programme, mais non seulement au programme immédiat pour l'élection, mais à quel autre système économique à long terme. Et même si ça ne va pas se faire la semaine prochaine ou l'an prochain ou dans deux ans pour les élections, je pense que re-réfléchir, oui, à un système de socialisme, parce que moi j'assume le mot, je pense que ce mot reste le mot le plus utile pour décrire un autre système économique que le capitalisme actuel. Et donc je pense que réfléchir et articuler de façon précise, de façon peut-être trop précise, mais en même temps, c'est important parce qu'on a trop... Au XXe siècle, c'est vrai qu'on a d'une certaine façon, le mouvement socialiste et communiste a laissé entendre qu'il suffirait de mettre fin à la propriété privée des moyens de production pour être dans l'émancipation, dans un système émancipateur. Bon, de toute évidence, ça n'a pas très bien fonctionné. Et il me paraît essentiel aujourd'hui, à partir du moment où on veut reconstruire une perspective d'un autre système économique, d'être effectivement quand même assez précis. Vous dites tout le monde est d'accord sur les petites entreprises privées, mais je suis pas si sûr. Je pense que justement toute la difficulté du socialisme historiquement, ça a été d'arriver à faire la différence entre les petits, les moyens, les gros. Comment on réfléchit à tout ça? Alors c'est peut-être très trivial et très trop pratico-pratique pour vous, mais je pense que on a besoin d'avoir ce débat au-delà de la question de la prochaine élection et de parler aussi, il y a des désaccords sur la question du dépassement de l'État-nation, de l'Europe, dont on n'a pas beaucoup parlé là, mais qui, je pense, est en fait le cœur de la discorde. C'est-à-dire que les deux camps actuellement, disons les insoumis d'un côté et puis les socialistes et les écologistes de l'autre, sont chacun persuadés d'avoir raison tout seul sur l'Europe. Moi, je pense qu'il y a des choses à prendre à la fois dans le rapport de force que proposent les insoumis. Mais en même temps, il n'y a pas forcément de proposition de déboucher. Enfin, je pense que là, le problème, c'est que les deux camps sont tellement persuadés de leur supériorité sur l'autre, sur cette question, que les obliger à se parler et à construire un programme ensemble risque d'être difficile.
On manque encore de dialogue et on a besoin d'occasion pour cela. On a bien compris vos points de vue et vos positions à l'un et à l'autre. Un grand merci, Thomas Piketty et Michel Husson, d'avoir accepté de débattre à ce micro. Michel Husson, je rappelle le titre de votre ouvrage écrit avec Alain Bir, Thomas Piketty, une critique illusoire du Capital, paru aux éditions Sileb. C'est le vôtre, Thomas Piketty, Vivement le socialisme, un recueil de vos chroniques dans le monde entre 2016 et 2020, paru au Seuil. Dans un instant, racontez-moi l'écho, votre rendez-vous du vendredi qui entrecroise économie et fiction. Aujourd'hui, retour sur la grève des taxis à Paris, à la veille de la Première Guerre mondiale. C'est Louis Aragon qui en fait le récit dans son roman Les cloches de Bâle.
Dans la petite rue, les vieilles maisons cachent le ciel par leurs toitures. On ne reconnaît les saisons qu'aux légumes des petites voitures. Dans cette rue sale et sans trottoir, les moineaux, les gosses, tout s'appioille. On peut s'y amuser pour voir. J'étais l'aîné toute une marmaille. C'est une petite rue, c'est le bout du monde. Il n'y a pas de danger qu'on la confonde. Sur le plan, elle n'a pas de nom. On dit d'elle au champ le menton. C'est la rue sans nom. C'est une petite rue pleine d'aventures. Dès le matin, elle sent la friture. À midi, les gosses dansent en rond. Le soir, on joue de l'accordéon. Dans la rue sans nom. Dans un coin noir, un joli blond m'avait embrassé par surprise. J'étais contente de cette leçon, la leçon d'amour, je l'ai bien comprise. Il ne m'a pas fallu plus de temps pour apprendre l'art de la toilette. J'avais tout juste 15 printemps et toute la rue perdait la tête. porte. C'est une petite rue, c'est le bout du monde. Il n'y a pas de danger qu'on la confonde. Sur le plan, elle n'a pas de nom. On dit d'elle au champ le menton. C'est la rue sans nom.
Pour parler de l'économie, selon Louis Aragon, nous avons choisi le premier roman du cycle du monde réel, Les cloches de Bâle, publié en 1934. L'un des personnages principaux, Catherine Simonidze, fille d'un magnat géorgien du pétrole, va connaître un éveil politique, elle qui baigne dans une société oisive et frivole, dominée par des personnages comme Blens Jongens.
L'aîné des Jongens, Blaise, était déjà débrouillé. Il travaillait chez un agent de change et parlait finance. Il ressemblait beaucoup à son frère Paul dont il raillait les idées sociales. C'était le libre penseur de la famille, il faut dire. Il trouvait qu'il fallait expulser les religieuses. Socialisme et christianisme lui paraissaient également méprisables et ridicules. Doctrine des faibles. Lui, une espèce d'athlète qui allait aux courses le dimanche, parce qu'il faut bien prendre l'air, il était pour la manière forte, comme il l'expliquait à Catherine qu'il avait sorti un soir à l'Apollo, où le looping the loop à bicyclette faisait fureur. On aurait les ouvriers avec soi, qu'en les tenant, que diable. Il fallait faire les affaires. Mademoiselle Simonidze raisonnait comme une enfant. Est-ce qu'elle se représentait seulement les désastres immédiats qu'entraînerait la fermeture, je ne dis pas des boutiques, mais simplement de la bourse? Oui, oui, naturellement, le monde voyait dans la bourse une espèce de caverne d'Ali Baba. C'était commode de personnifier ainsi le régime, de symboliser la corruption, le vol, etc., etc., au moyen d'un édifice. Le vrai est que l'ignorance vulgaire devant les opérations qui s'y réalisent est tout à fait assimilable au philistinisme en face des mathématiques supérieures. On ne comprend pas, alors on accuse. Et il faut bien qu'on ait quelqu'un à qui s'en prendre des misères du temps, maintenant qu'on ne peut plus brûler les sorciers.
Bonjour Marie-France Boireau.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes professeure honoraire de lettres et autrice d'une thèse intitulée Aragon, romancier de la Grande Guerre et penseur de l'histoire, publiée aux presses universitaires du Septentrion. Racontez-nous d'abord, Marie-France Barreau, comment Catherine Simonidze en arrive à s'ouvrir à la condition de la classe ouvrière, ce qui est véritablement au cœur de ce roman Les cloches de Bâle.
Oui, enfin, écoutez, vous avez pris comme fil rouge la vie de Catherine. Bon, il y a un personnage que rencontre Catherine et qui joue un rôle très important pour elle. C'est un personnage qui s'appelle Victor, qui porte un prénom, je dirais, qui signifie par lui-même un certain nombre de choses et qui participe d'ailleurs, qui est un syndicaliste, qui participe à justement la grève des taxis que vous avez évoquée en introduction, la grève des taxis qui se situe en 1911, juste avant justement la Seconde Guerre mondiale. Je voudrais préciser quelque chose d'abord, si vous voulez. Il me semble que il y a dans ce roman Les cloches de Bâle, dont le titre est quand même extrêmement révélateur, puisqu'il renvoie au congrès qui s'est tenu à Bâle en 1912, à savoir congrès socialiste, des socialistes qui essayaient de se mobiliser contre la guerre qu'ils voyaient imminente. Guerre à la guerre. Et c'est là qu'Arago, Jaurès a dit son célèbre discours dans la cathédrale de Bâle. Et donc il y a évocation dans ce roman, avec effectivement ce personnage de Catherine, guerres en quelque sorte. Il y a une première guerre qui se profile et qui sera d'ailleurs celle qui deviendra la Grande Guerre. J'utilise le futur parce qu'on est en 1912. Mm-hmm. Et il y a une deuxième guerre que tout le monde n'appelle pas guerre, mais qu'Aragon appelle guerre, la guerre sociale.
Et alors, c'est justement cette guerre sociale. Alors, on va venir à la grève des taxis, mais c'est cette guerre sociale dont va prendre conscience véritablement Catherine Simonidze dans le roman, en particulier avant la grève des taxis, lors d'une grève des ouvrières logées de Cluses en 1904.
Effectivement, qui va être le premier contact en quelque sorte de Catherine avec, disons, l'exploitation des travailleurs. Et ce premier contact va jouer un rôle extrêmement important, effectivement, dans sa vie. Mais le chemin qui va mener Catherine vers une prise de conscience, il est extrêmement long. Mmh. Et je dirais que, à la limite, on ne le voit pas dans son aboutissement, dans les cloches de Bâle, hein, puisque dans les dernières pages du roman, il est précisé que Catherine lit le 18 Brumaire de Marx et qu'elle sort peu à peu des ténèbres, vous voyez, parce qu'Aragon, pour évoquer justement ces problèmes-là, le personnage de Catherine est un personnage éminemment romanesque et politiquement parlant, il n'est pas suffisamment fort, parce que justement c'est un personnage romanesque, c'est-à-dire un personnage qui justement se caractérise par une ambiguïté. Tout personnage véritablement romanesque a une ambiguïté, et c'est le personnage de Catherine qui fait que ce roman vaut beaucoup mieux, si vous voulez, que ce qu'on en dit, puisqu'on le qualifie assez rapidement de roman à thèse, alors que justement le personnage de Catherine fait que ça n'est pas un roman à thèse, et que Catherine sort peu à peu des ténèbres dans les dernières pages du roman, mais elle n'est pas assez forte pour incarner justement la guerre sociale, puisqu'elle est remplacée par un personnage non ambigu, un personnage historique cette fois-ci, c'est-à-dire Clara Zetkin, la grande militante socialiste participant au congrès de Bâle de 1912. Alors on ne va pas faire d'anachronisme, hein, parce que le Parti communiste français est né en 1920, donc on est en 1912. Mais là on a un personnage, si vous voulez, qui peut incarner justement les idées marxistes d'Aragon. Parce qu'il faut bien voir qu'Aragon est à la fois, je crois que c'est important de le souligner, militant, un adhérent du Parti communiste, d'une part, et d'autre part, romancier. Mmh. Et justement, le romancier n'a pas pour tâche d'illustrer les thèses d'un parti. Bon, bien entendu, le roman est traversé par cet engagement d'Aragon.
Et notamment ses distances à l'égard du réformisme de Jaurès.
Absolument, absolument. Dans les cloches de Bâle. Alors que dans le roman suivant, Les Beaux Quartiers, en 1934, la politique et la stratégie du Parti communiste français est la stratégie classe contre classe. Donc effectivement, il y a beaucoup de réserves d'Aragon à l'égard de Jaurès, incontestablement. Et le personnage de Victor, dont je parlais tout à l'heure, qui est un personnage central de la grève des taxis, qui est un syndicaliste d'une certaine manière réformiste. On en reparlera peut-être tout à l'heure. Bon. Alors que en 1936, quand Aragon publie le second roman du monde réel, la stratégie du Parti communiste est une stratégie d'union. Et là, Jaurès apparaît véritablement comme un personnage extrêmement positif, rassembleur, etc., etc. Et donc c'est très intéressant.
Alors venons-en, Marie-France Boireau, venons-en à cette grève des conducteurs de taxi parisiens, événement qui a eu lieu en 1911 et qui occupe une place centrale dans le roman, à l'origine du conflit, la création d'un consortium qui s'enrichit sur le dos des chauffeurs.
L'introduction de l'auto de louage à Paris par la Compagnie Générale était une idée personnelle de Joseph Quesnel, homme d'affaires audacieux. Mais les quelques machines lancées dès 1905 avaient été bientôt concurrencées. De nouvelles compagnies s'étaient créées qui n'avaient pas avec elles le poids mort des voitures à cheval. Ce fut une course aux effectifs. En deux années, la montée des taxis auto dans Paris fut vertigineuse. En même temps, il fallait recruter tout un personnel de chauffeurs qui débarqua à Paris du fond des provinces avec les illusions d'un métier nouveau et moderne. Les bénéfices de la compagnie croissaient avec l'augmentation du nombre des voitures. Mais déjà, Joseph Quesnel apercevait les limites de son empire. Il prit les mesures pour parer aux dangers du lendemain. Dès 1908, il fonda par un accord passé avec les plus grosses compagnies rivales le consortium, qui pratiquement éliminait les périls de la concurrence. Plus de guerre de tarifs. Et surtout, le moyen de faire, à pas trop cher, les pressions nécessaires sur le conseil municipal de Paris, de qui dépendait toute la législation des voitures, des taxes sur la circulation. Le consortium, par ailleurs, présentait un autre avantage. Le consortium, en effet, organisa dans les garages la vente de l'essence aux chauffeurs. En plus donc des 72,5% que les chauffeurs rapportaient aux compagnies de leurs recettes quotidiennes, venait s'ajouter ce commerce nouveau. Un accord était intervenu entre le consortium et la Standard Oil.
Et l'opération est extrêmement rentable pour le consortium, jusqu'à ce que les chauffeurs commencent à utiliser du benzol moins cher que l'essence. Sous la pression du patronat, le conseil municipal établit alors une taxe de 100 sous sur le benzol, point de départ de ce conflit de 1911. Qu'est-ce que Louis Aragon cherche à nous raconter avec cet épisode, Marie-France Boireau?
Bon bah, il cherche très exactement à mettre en lumière, comme je le disais tout à l'heure, un système d'exploitation, ce qu'il appelle la guerre sociale, parce que les chauffeurs de taxi sont complètement exploités. Ils ne sont pas considérés d'ailleurs comme des salariés, hein, ils ne sont pas soumis aux lois sociales. Donc là, on est dans une exploitation, totale. Et cela permet, je réponds très précisément à votre question, et je vais illustrer finalement par ma réponse ce que je disais tout à l'heure, à savoir que Aragon est un romancier, et par conséquent, il peut mettre en place, si vous voulez, dans le roman, une polyphonie, c'est-à-dire il y a des personnages qui parlent, il y a des personnages qui dialoguent. Et donc, et c'est là justement que ce roman devient extrêmement intéressant, parce que parmi les grévistes, il va y avoir deux types de militants, si j'ose dire. D'une part, des militants se revendiquant d'un syndicalisme révolutionnaire, hein, donc c'est le personnage de Bachereau, entre autres, hein, mm-hmm. qui se veut, ce syndicalisme révolutionnaire qui se veut autonome par rapport aux partis politiques. Et je dirais que quand on relit les cloches de Bâle actuellement, on trouve des échos à l'actualité, hein, sans vouloir faire d'anachronisme. Hein, c'est le courant de la CGT qui renvoie à la charte d'Amiens de 1906, hein, qui revendique l'action directe, la grève générale, ce que le secrétaire général de la Fédération des Bourses, Pelloutier, appelle la grève générale expropriatrice.
Et puis il y a effectivement les grévistes réformistes, et puis il y a aussi les jaunes. Aragon nous raconte le sort réservé aux jaunes qui se désolidarisent de la grève et qui veulent reprendre le travail.
Tout à fait. Non mais il y a, donc, je termine ma démonstration si vous le permettez.
Alors on arrive vraiment au terme de cette interview, mais on vous écoute.
Les réformistes illustrés par Victor, dont on parlait tout à l'heure. Voilà. Et donc Aragon, si vous voulez, fait dialoguer ces personnages, et il est très difficile, en lisant le roman, de savoir quel parti, si j'ose dire, quelle est la position d'Aragon par rapport à ce syndicat. Que choisit-il ? Est-ce qu'il choisit le syndicalisme révolutionnaire ? Est-ce qu'il choisirait le syndicalisme politique illustré par Victor ? C'est très très difficile de le dire, de telle sorte que le commentaire qui est paru dans l'Humanité lors de la parution du roman souligne l'ambiguïté du roman, hein, et dit que finalement Aragon a été peut-être inconsciemment attiré par l'anarchisme. Vous imaginez quelqu'un comme Aragon qui écrirait des choses de manière inconsciente.
Une ambiguïté qu'on voit aussi du côté du récit que Aragon fait des origines de la Première Guerre mondiale. Pour lui, ce sont moins les nationalistes que les intérêts économiques qui déclenchent le conflit. Merci beaucoup Marie-France Boireau de nous avoir fait découvrir ce roman d'Aragon, Les cloches de Bâle, dont je recommande chaudement la lecture, notamment le chapitre consacré à Catherine, mais aussi celui consacré à Victor. Un grand merci. Merci à toute l'équipe d'Entendez-vous l'écho, Marguerite Caton, Aliette Ovine, Léa Sabourin et Antoine Jourdan, à la réalisation Félix Levaché, à la technique aujourd'hui Clément Daté. La semaine prochaine, ce sont les liens entre économie et religion que nous explorerons. On parlera de financement du culte et de comptes occultes. En attendant, vous pouvez écouter l'ensemble de nos émissions sur notre site franceculture.fr et sur l'application Radio France, et nous retrouver sur Twitter sur le compte d'Entendez-vous l'écho.